Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité d'aujourd'hui, numéro 26, a pour titre générique Le règne des Picsous. Dans l'actualité économique financière, nous entendîmes il y a quelques jours, à l'occasion de la visite de Nicolas Sarkozy, chef de l'État français, au terme de la constitution qu'il a mis en place de président de la République, promettre de remettre les dettes d'Haïti afin de faciliter son redémarrage économique. Je vous parlerai plus amplement du problème du Club de Paris dans ma prochaine intervention, cette chronique me paraissant déjà suffisamment fournie. En attendant, la France, se révélant comme le pays le plus désindustrialisé du G8, il est probable qu'étant en voie de sous-développement depuis 30 ans, nous ayons bientôt besoin du même secours qu'Haïti sous peu de temps. Mon conseil patrimonial du jour, vous avez peut-être aperçu cette publicité dite de l'or postal à la télé, au slogan si aguichant, transformez votre or en argent. Vous êtes invité à employer une simple enveloppe, à y mettre votre or et à l'envoyer, pour qu'une estimation, bien sûr gratuite, en soit faite par le destinataire, lequel aussitôt vous promet l'envoi du montant. Je voudrais vous mettre en garde contre cette publicité qui n'a pour seul but que d'obéir aux rackets mondiales de l'or décidées par la secte noire. Une nouvelle version de l'emprunt or, sauf que là, il vous est définitivement enlevé. Voilà un pseudo-service d'estimation suivi d'un règlement d'un montant décidé sans vous, et auquel vous êtes censé vous abandonner totalement. Vous pouvez tous les jours faire vous-même votre estimation de votre stock d'or par une simple règle de 3. Voici le mode de calcul très simple à la portée d'un titulaire du certificat d'études primaires qu'en mai. Tous les jours, à Londres, est déterminé matin et soir un fixing de l'or. Par exemple, hier, il était à 1120,80 dollars US par once anglo-saxonne de 31 grammes 10. Vous divisez le prix de l'once par son nombre de grammes et vous obtenez le prix d'un gramme d'or pur en dollars. Vous remultipliez par le nombre de grammes d'or pur contenu dans une pièce d'or du type Union latine ou Napoléon, soit 5 grammes 80. Et vous obtenez la valeur en dollars US de votre pièce. C'est la même chose pour un objet quelconque dont on connaît le poids d'or fin, c'est-à-dire d'or fin pur. L'or légal en France était avant la décision d'annulation de Chirac de 18 carats, soit 75% d'or pur dans un alliage généralement au cuivre. Chirac a aussi supprimé le marché de l'or en France. Mais reprenons notre calcul. Nous venons de faire une règle de 3 qui nous donne la valeur en dollars US de votre pièce. Il vous suffit alors de multiplier cette valeur par le cours de l'euro vu depuis le dollar, soit hier de 0,73 69,79, c'est-à-dire presque 0,74, ce qui donne une valeur exacte en euros de votre pièce, soit pour hier 154,20 €. Voilà pour l'estimation. Comme vous voyez, rien de plus simple. Et il ne s'agit donc pas d'un service. Ensuite, l'or postal va-t-il vous envoyer le prix de votre or en argent? Non, car alors il devrait vous envoyer de l'argent métal pur. Non, il va vous envoyer le prix de votre or ainsi calculé comme ci-dessus, en monnaie ayant cours légal en France, c'est-à-dire soit en bout de papier coloré, billet, soit plus probablement en électron par dépôt du montant du crédit d'un compte bancaire que vous lui aurez indiqué lors de l'envoi. Il s'agit donc ici d'une assimilation de la monnaie crédit scripturale à de l'argent, vieux concept aujourd'hui dépassé par l'ampleur des faillites étatiques et bancaires. Je vous mets en garde dans la foulée contre l'achat qui est encore vanté par la télé hier de pièces d'or ou d'argent en euros que l'on vous propose partout d'acheter pour leur nominal de 50, 100, voire 500 euros, voire bien, bien plus chez certains marchands. Alors que leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur déterminée comme ci-dessus, sont de très loin inférieures. il vous faudra sans doute attendre des années avant de retrouver l'épargne à égalité, sans intérêt, que vous aurez laissée entre les mains de l'État. C'est, disons le mot, une arnaque. L'État est aux abois, tout lui est bon. Ne confondez pas ces pièces à faible teneur avec celles de nos grands-mères. Ce qui m'amène à mon chapitre 26 de l'histoire de la monnaie, c'est-à-dire la rétrospective 3, deuxième partie, sur le contenu des porte-monnaies de nos mères et arrière-grand-mères, sous le Consulat, l'Empire, le second, Charles X et enfin Louis-Philippe Ier. Grâce aux bons soins de Talleyrand, le boucher de Paris, qui avait pour nom Buonaparte, arriva en tête grâce à l'ordre alphabétique et prit donc la place offerte par ce qui restait de l'Assemblée des 500 dans la nouvelle Constitution, celle de premier consul, avant de se faire plébisciter comme empereur des Français, titre resté libre depuis Charlemagne, selon Sacha Guitry dans son célèbre film Napoléon. Toujours est-il qu'il respecta scrupuleusement la loi de Germinal et le système décimal. Il fit frapper de 1802 à 1815 beaucoup de pièces. Il en avait bien besoin puisqu'il raconte lui-même, dans le mémorial de Sainte-Hélène, dicté au baron de Lascaz, qu'il amassa jusqu'à 50 millions de francs or dans les caves des Tuileries, comme lui appartenant en propre, soit une montagne enterrée de 2 500 000 pièces d'or de 20 francs. Un vrai picsou perché sur son tas d'or. Les dites pièces d'or de 20 francs pesaient 6,45 g, à 900 millièmes de fin, c'est-à-dire 5,805 g. Des pièces de 40 francs or pesaient 12,90 g, c'est-à-dire le double, strictement, au même titre, toujours cette ancienne technique du double. Cela mettait le franc or à 0,29 g d'or pur, c'est-à-dire à mi-chemin des Louis XVI et des pièces de la Convention. On peut dire que de ce point de vue, l'échelle de valeur restera pratiquement la même, malgré la révolution entre Louis XVI et Napoléon Ier. Sur la tranche des nouvelles pièces est gravée la devise impériale « Dieu protège la France ». Le portrait de Napoléon Ier, empereur des Français, apparaît à l'avers. Le revers porta d'abord « République française » puis « Empire français ». Une nouvelle loi du 28 mars 1803, 7 Germinal en 11, vient conforter la précédente et de nouvelles pièces de poids et de titres rigoureusement conventionnelles, c'est le cas de le dire, sont frappées. 5 francs d'argent de 25 grammes, 900 millièmes de fin, ça donne 22,5 grammes d'argent pur. 2 francs d'argent de 10 grammes, toutes deux avaient la devise impériale « Dieu protège la France » sur la tranche. Un demi-franc d'argent de 2,5 g, un quart de franc d'argent, dans le même esprit que le fameux quarter américain de 1,25 g. Toutes ces pièces d'argent ont même un titre légal, et enfin, depuis des siècles, le petit peuple voit réapparaître l'argent dans ses menus échanges. Il en remercie évidemment vivement l'empereur. Ce n'est que pour les pièces divisionnaires que le bronze reste utilisé, 10 cents, 5 cents, 1 cent. On note que le vocable emprunte aussi à l'américain, ce qui n'est pas un hasard, car il s'agit bien d'un message au peuple sommé d'approuver l'amitié franco-américaine avec les nordistes, auxquels Napoléon va vendre en 1803, pour 80 millions de francs or, notre Louisiane, soit près du quart des USA actuels. L'euro devait reprendre le même américanisme en 99-2002, affichant de nouveau la Pax Americana, auquel il se soumit d'ailleurs d'entrée de jeu. Après la relégation de l'usurpateur sur sa petite île, la restauration de la monarchie véritable permit à Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI, de faire frapper de 1815 à sa mort en 1824 des pièces de 40 francs et de 20 francs or, de poids proportionnel identique, dont seul le portrait change à l'avers, ce qui laissera dans les mémoires populaires l'idée que les Louis et les Napoléons étaient identiques en oubliant Louis XVI. Il n'aimait pas de demi-louis et laisse les demi-Napoléons de 10 francs circuler sans changement par souci d'économie. Nos ancêtres recueillaient donc indifféremment des Napoléons et des Louis XVIII d'égale valeur dans leur porte-monnaie. Louis XVIII fait également frapper des pièces d'argent, identiques quant au poids et au titre précédent, mais avec son portrait à la verre et l'écu du roi au revers, qui fit ainsi sa réapparition sur toutes les pièces de valeur faciale de 5, 2 et 1 franc, demi et quart de franc. La gravure royale sur la tranche est dominée Salvum fac regem, et pour cause. Ces pièces de 10 cents en bronze pèsent 24 grammes, comme les pièces de 2 sols de la Convention, mais sont rebaptisées décimes, et les demi-décimes, anciens 5 cents, pèsent 12 grammes. Le message de Louis XVIII est clair. La France et sa langue reprennent leurs droits sur les lois fondamentales ancestrales. La monnaie continue donc de jouer son rôle de média, affichant le message officiel destiné au peuple. Durant les fameux 100 jours, le petit Corse, doublement usurpateur, trouve le temps de faire frapper une pièce de 2 francs d'argent avec son portrait à lui et le rétablissement de la devise impériale sur la tranche. Mais le message reste bien faible et sera vite oublié. Une vraie pièce de collection. Sous Charles X, deuxième frère de Louis XVI, de 1824 à 1830, c'est le tour du portrait de celui-ci d'apparaître sur les pièces de monnaie de 40 et 20 francs or qui circulent indifféremment avec les anciennes, car à identité de poids et de titre depuis Napoléon Ier. Simple message publicitaire, véhiculé par une monnaie que nos ancêtres ont le bonheur de connaître stable. Ceci malgré les bouleversements politiques et les guerres, démontrant ainsi la totale indépendance de la monnaie quand elle est véritable, vis-à-vis des politiques économiques et sociales. Charles X fait aussi frapper des pièces d'argent de 5, 2 et 1 franc, demi et quart de franc, identiques aux précédentes, mais évidemment avec son portrait, et toujours la devise de son frère Louis XVIII sur la tranche, « Domine salvum fac regem ». Une sorte d'acquis social, en quelque sorte. Louis-Philippe Ier bouleversa complètement la royauté française. Je vous lis un bref extrait de Wikipédia qui va nous permettre une petite revue historique pas inutile, dans le domaine même monétaire. Né à Paris, Louis-Philippe d'Orléans est le fils de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, duc d'Orléans, connu sous le nom de Philippe Égalité, qui vota la mort de Louis XVI, et de Louise-Henriette-Marie-Adélaïde de Bourbon. Titré duc de Valois, de sa naissance à la mort de son grand-père en 1725, il porte ensuite le titre de duc de Chartres. Comme son père, le duc de Chartres est un partisan de la Révolution française. Sous l'influence de sa gouvernante, Madame de Genlis, il entre au club des Jacobins. Il participe en tant que lieutenant général aux batailles de Valmy, de Jemappes, où il joue un rôle non négligeable en évitant la retraite du centre lors du premier assaut, et de Neerwinden. À la suite de son chef, le général Dumouriez, il passe à l'Autriche en 1723 et mène dès lors une vie d'errance, y compris aux États-Unis, où il reste 4 années à Philadelphie. Entre nous, c'est le siège de l'émission monétaire en dollars. Son titre de lieutenant général au service des armées républicaines et plus tard au service de Louis de Charles X lui vaut son inscription sur l'Arc de Triomphe de l'Étoile. L'arrivée au pouvoir de Bonaparte ne met pas fin à son exil durant l'Empire. En 1809, Louis-Philippe épouse Marie-Amélie de Bourbon, princesse des Deux-Siciles, et fille du roi Ferdinand Ier des Deux-Siciles. Ils ont 10 enfants. Après l'abdication de Napoléon Bonaparte en 1814, Louis-Philippe rentre vivre en France, recevant le titre de duc d'Orléans et sa demeure, le Palais Royal. Sous la Restauration, les règnes de Louis XVIII et de Charles X, la popularité de Louis-Philippe grandit. Il incarne une opposition mesurée à la politique des ultras du royalisme et ne rejette pas l'intégralité de la Révolution française. En 1830, la Révolution des Trois Glorieuses renverse Charles X qui abdique, en violation de la loi fondamentale du royaume qui déclare la couronne indisponible, avec le contre-saint de son fils le dauphin, pour tenter de pérenniser cette violation en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux. Charles X institue le duc d'Orléans comme lieutenant général du royaume. Louis-Philippe se fait proclamer par la Chambre des députés roi des Français, et non de France. Ce nouveau titre déjà portée par Louis XVI de 1789 à 1792, est une innovation constitutionnelle liant la nouvelle monarchie populaire au peuple et non plus au pays, au territoire, matérialisé par le drapeau tricolore. Il s'agit donc d'une monarchie contractuelle fondée sur un pacte entre le roi et les représentants de la nation et non plus constitutionnelle comme celle de Louis XVI. Le drapeau blanc de la Restauration est relégué aux oubliettes. Cette arrivée au pouvoir à la faveur d'un soulèvement populaire vaut à Louis-Philippe l'hostilité des cours européennes et le surnom de roi des barricades ou encore roi bourgeois. Louis-Philippe prit garde en effet à se conduire modestement et bourgeoisement, envoyant ses enfants au lycée Henri IV. Au lendemain de la mort de Louis XVIII, il obtient le rang d'altesse royale accordé par Charles X. De même, grâce au nouveau roi, il est le plus grand des indemnisés de la loi du milliard aux émigrés de 1825. « Enrichissez-vous !» disait François Guizot. Les Orléans passaient, à tort ou à raison, pour fort économes, regardant près de leurs intérêts. Louis-Philippe s'était toujours soucié d'une sage économie domestique, indifférent aux candidatons, attentif seulement à ses affaires et menant avec ses banquiers de Londres une correspondance minutieuse, faisant et refaisant ses comptes lui-même, héritier veillant à ce que rien ne se perdît de l'héritage, à ce qu'il s'enrichit d'appoint, dès longtemps guetté, bon, excellent père de famille, jusqu'à se substituer à ses enfants et à sauvegarder leur patrimoine en dehors d'eux, sinon contre leur gré. La dernière image que l'on garde de lui est celle d'un capitaliste éperdu, balbutiant dans le désastre, réclamant son portefeuille et ses clés. En termes monétaires, il est absolument conservateur et n'opère comme seul changement que son portrait à l'avers des pièces de monnaie et rétablit la devise impériale sur la tranche « Dieu protège la France ». Il ne fit pas frapper de pièces de bronze nouvelles, laissant toutes les anciennes circuler. Peut-être en ignorait-il même l'existence. Je doute quand même qu'il ait fait ses comptes au centime près. Arrivé à la faveur d'un soulèvement populaire, il est éjecté de son trône par un autre soulèvement populaire qui rétablit la République en 1848, laquelle érige à nouveau l'Assemblée des représentants du peuple en souverain, dont le président de la République n'est que l'employé, enfermé dans ses murs. Ce fut Charles-Louis-Napoléon Bonaparte qui siégeait préalablement sur les bancs de la montagne. Le 2 décembre 1851, Napoléon le Petit, comme le surnomme Victor Hugo, lui-même représentant du peuple, et l'un de ses principaux opposants, à ce titre condamné à mort, commit un coup d'État sanguinaire et imposa par un plébiscite honteusement manipulé le rétablissement de l'Empire, qui fut donc le second. Nous parcourrons la prochaine fois dans notre chapitre 27 le Second Empire, les 3e, 4e et 5e Républiques, avec les régimes intermédiaires de l'État français et la tentative dite de la France libre, dans le détail des porte-monnaies de nos mères et arrière-grand-mères, troisième partie de notre rétrospective 3, la prochaine fois. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. À bientôt.